Des ondes, des ailes, sur Radio Ondaine, un rendez-vous mensuel avec la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, délégation de la Loire. Un tour d'horizon en vol groupé pour découvrir les oiseaux de notre territoire, la faune, la flore et toutes les personnes qui s'engagent pour connaître, protéger, sensibiliser et favoriser la biodiversité. La Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO Loire, une association au service de la nature et des hommes, sur Radio Ondaine 90.9 FM et sur le www.radio-ondaine.fr.
Et pour ce mois de juillet, c'est le hibou grand-duc que nous allons découvrir. C'est Patrick Baluet, le président de la LPO Loire et spécialiste de ce rapace nocturne et chanteur qui va nous l'expliquer. Alors là, c'est une grande conversation entre un couple de hiboux grand-duc. Patrick Baluet, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Ondaine.
Bonjour.
Alors, dans cette émission des ondes, des ailes, c'est un rendez-vous mensuel que nous avons débuté au mois de mars. Donc, on parle un peu de ces espèces-là et le hibou grand-duc est à l'honneur pour ce mois de juillet. Grand-duc parce que c'est un animal assez grand quand même.
Oui, c'est le plus grand de nos rapaces nocturnes, hein. C'est un peu l'aigle de la nuit, si on peut dire, hein. Donc c'est ce qu'on appelle nous un super prédateur, c'est-à-dire il est au sommet de la chaîne alimentaire. Pour donner une idée, il fait 1,70 m d'envergure, c'est en gros, si on étend nos bras, nous, ça donne un peu l'envergure de ses ailes.
Il fait quelle hauteur quand...
En hauteur, ça doit être 50-55 cm, un truc comme ça quand il est posé.
Alors le hibou grand-duc, on le retrouve dans quelle région dans le monde? Est-ce que c'est un animal exclusivement du massif central? Est-ce qu'on le retrouve en Europe? Expliquez-nous un peu où est-ce qu'on l'observe cet oiseau et ce rapace.
Alors en Europe, son vrai nom, si on peut dire scientifique, c'est Bubo, et son nom officiel français, c'est Grand-Duc d'Europe. Donc ça se situe un petit peu, c'est un Européen, il va même jusqu'à l'Oural, hein, c'est-à-dire jusqu'en actuelle Russie. Donc il occupe essentiellement les milieux rocheux, pas forcément montagneux. C'est là qu'il vit en général, même s'il y a des exceptions à cette règle. Et plus près de chez nous, on l'observe, nous, dans le Massif central, dans les Alpes, dans notre région, plutôt sur des milieux rocheux, typiquement chez nous, dans des gorges rocheuses de nos rivières, gorges de la Loire, par exemple.
Alors, près de chez nous, est-ce que c'est un animal qui se porte bien en nombre d'individus?
Oui, alors on considère que c'est le cas effectivement, qu'il se porte pas trop mal, parce que alors on suit de très près les populations de cet oiseau, et en hiver, parce que le chant que vous avez entendu tout à l'heure, là ça se déroule en hiver, au sortir de l'hiver on a des parades, c'est ce qu'on a pu entendre tout à l'heure, avec des couples d'oiseaux qui paradent parce qu'ils vont se mettre à nicher dès le mois de février. Et donc, il occupe chez nous des milieux, comme je vous ai dit, de gorges rocheuses. Et son cycle de reproduction va être assez étendu sur l'année, puisque, comme je vous disais, parade en janvier-février, chant, accouplement, reproduction. Et ensuite, les jeunes vont grandir et ils vont s'émanciper seulement au mois de septembre-octobre. Donc, en fait, c'est comme si son cycle de reproduction durait toute l'année, en fait.
Alors c'est un oiseau plutôt sédentaire qui vit un peu dans un espace sans forcément migrer, sans aller chercher ici et là des climats meilleurs.
C'est absolument un oiseau sédentaire, effectivement, donc il est là toute l'année. Ce n'est pas un migrateur, donc on peut l'observer nous en hiver, on aime bien l'observer en hiver parce qu'on ne le voit pas trop mal. On suit la reproduction comme je vous le disais à l'instant, et en fait toute l'année on peut le voir chez nous, il ne bouge pas. Alors il y a des petits mouvements, certainement des jeunes en dispersion qui vont chercher eux-mêmes des nouveaux sites de reproduction, mais c'est à peu près tout, les adultes restent attachés à leur site de nidification.
Alors, on peut l'observer, même si c'est un animal qui se camoufle assez aisément par la couleur de ses plumes qui rappelle la roche. Alors, comment on le décrit? On parlait tout à l'heure de sa taille, son envergure, mais au niveau de son plumage, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a des caractéristiques particulières?
Alors il est brun roux, hein, globalement, ce qui le permet d'être très très mimétique. On parle d'homochromie, hein, le terme savant, c'est ça, par rapport aux rochers qu'il fréquente et à la petite végétation qu'il y a parfois autour des rochers. Donc brun roux, on va dire généralement, avec des taches plus claires sur la face ventrale, une grosse tête. avec deux, ce ne sont pas des oreilles, hein, ce sont des aigrettes sur la tête, c'est décoratif, c'est pour faire joli, et deux grands, si on le voit d'une grande vision binoculaire, un peu comme les humains, donc deux yeux de face comme ceci, et qui ont un iris orangé absolument magnifique quand on peut l'observer.
Alors, on l'observe comment, vous, dans, avec la LPO, dans vos études sur cette espèce, quel est l'endroit le plus adéquat pour l'observer et le moment de la journée ?
Alors, ce que l'on fait, nous, en hiver, typiquement, c'est qu'on organise des soirées de prospection. Donc, l'idée, c'est de se rendre dans un site favorable, typiquement au pied d'une falaise qui nous plaît, et qui lui plaît à lui surtout, et qui leur au mâle et à la femelle, à la tombée de la nuit. Donc, lorsque le jour décline, c'est là que le chant va être émis. Si on a de la chance, ils vont chanter un petit peu tôt, donc on pourra les observer dans des bonnes conditions avant qu'il fasse trop sombre. Et puis, si ça traîne un peu plus, si ça tarde un peu plus, on le verra aussi, mais ça sera plus une ombre qui passera devant les falaises.
Alors, c'est un rapace nocturne. Sa période d'activité, c'est typiquement la nuit ou c'est là où tomber de la nuit ?
Alors la tombée de la nuit, l'activité commence, mais c'est un nocturne effectivement, donc il va être actif toute la nuit et cesser son activité eh ben, au petit matin. Donc ça c'est le rythme habituel. Alors il y a des études qui ont été faites, il n'est pas actif forcément toute la nuit. Si la contrée qu'il fréquente est assez giboyeuse de son point de vue, eh ben, il va chasser un peu pour nourrir ses jeunes quand il en aura, et puis il va se reposer le reste du temps. Hein. Vous savez, les oiseaux, ils font pas forcément 8 heures de boulot comme nous, ils chassent en fonction de leurs besoins.
Alors c'est quoi la chaîne alimentaire finalement pour c'est quoi sa nourriture et son plat préféré?
Alors, son plat préféré, c'est les mammifères chez nous. Hein. S'il trouve des lapins, il en prendra, mais c'est pas le lapin se porte pas très bien chez nous ces temps-ci, donc il va manger du hérisson, assez étonnant, du rat sur mulot. Et d'autres mammifères, et puis chez les oiseaux il va manger en gros un tiers d'oiseaux, beaucoup de corvidés, des geais, des pies, des corneilles, ça va être ça la base de son régime alimentaire. Puis c'est un opportuniste, s'il y a une proie plus fréquente sur un territoire, il va essentiellement s'y consacrer.
Alors vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il soit au sommet de la chaîne alimentaire, mais est-ce qu'il a des ennemis, sans employer le terme des prédateurs, mais voilà, est-ce que c'est aussi un oiseau qui peut arriver en conflit avec d'autres espèces ?
Pas énormément chez nous. Il est vraiment au sommet de la chaîne alimentaire. Alors les conflits qu'on peut observer, ça peut être au sol, peut-être lorsqu'il est posé au sol en période de nidification, avec un renard par exemple qui passe, ou avec des sangliers aussi qui peuvent fréquenter les mêmes milieux. Mais il n'y a pas vraiment de prédateurs attitrés chez nous. Il n'y a pas de plus gros oiseaux la nuit, ou de plus gros, ou de mammifères qui veuillent spécialement s'en prendre à lui.
Alors on parlait de la reproduction de cet animal-là, est-ce que ce sont des couples fidèles ou d'opportunités ?
Eh bien, c'est une question qu'on a étudiée, figurez-vous, et qui est encore en cours d'étude, parce que on les dirait plutôt fidèles. Alors, en fait, fidèles à un site de nidification. Donc, en gros, ils aiment bien rentrer à la maison, mais ça n'empêche pas un peu des escapades qu'on essaie de traquer avec soit des méthodes génétiques, soit des méthodes de suivi carrément des oiseaux dans leurs déplacements. Et alors, grosso modo, tant que le couple est présent, ils vont rester ensemble. Et puis s'il y a une disparition, s'il y a un oiseau qui meurt, il sera remplacé assez rapidement par un autre oiseau. Donc la reproduction continuera sur ce site si c'est un bon site.
Alors c'est un oiseau qui vit combien de temps ?
Alors, bonne question là aussi. En nature, une petite dizaine d'années, parce qu'il faut qu'il connaisse un site, qu'il apprenne à connaître un site et ses dangers, parce qu'il y en a. Et en captivité, par contre, on a l'impression que c'est un oiseau qui pourrait vivre plusieurs dizaines d'années, typiquement jusqu'à 20 ou 30 ans, peut-être plus.
Au lieu de parler de la mort, parlons de sa naissance. Les petits restent combien de temps avec le couple de parents ?
Alors les éclosions typiquement chez nous, ça va être aux alentours du mois de fin mars, début avril. Après, ils vont rester 9 semaines nourris par les parents au nid, et donc ils vont s'envoler à 9-10 semaines. donc ce qui nous porte aux alentours du mois de juin ou quelque chose comme ça. Et puis après, ils vont rester sur le site encore un mois ou deux, juillet, août, début septembre. Se faire encore nourrir par les parents, parce que c'est tellement plus confortable. Et puis ensuite, donc là, on en est à plusieurs mois hein, de présence sur le site. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle la dispersion. Ils vont aller chercher fortune ailleurs. Ils vont être finalement chassés par les parents en septembre, octobre, pour aller voir ailleurs s'ils trouvent un site et puis un partenaire pour fonder à leur tour un couple reproducteur.
Alors, est-ce que c'est un oiseau qui a un faible taux de mortalité sur la naissance ? Est-ce que c'est un oiseau résistant finalement ? Est-ce que même dans ses premières semaines, cet oiseau n'a pas trop de risques ?
Alors, au moment de la dispersion qu'on évoquait tout à l'heure, il y a des risques. Pourquoi ? Parce que les jeunes oiseaux vont aller explorer. Alors typiquement, ils vont à 100-150 km de leur lieu de naissance, ça commence à faire, dans des endroits qu'ils ne vont pas connaître. Et donc ils ne connaîtront pas les dangers, et là on a une grosse mortalité juvénile, on dit donc de la première année en fait, de premier hiver, parce qu'ils vont explorer. Alors typiquement les dangers, c'est traverser une route et se faire heurter par un véhicule, c'est traverser une vallée et heurter une ligne électrique, par exemple, etc., ce genre de choses. Et donc là, il y a une grosse mortalité la première année. Après, quand ils sont fixés sur un site, ils vont apprendre à connaître ce site, et dès leur première année passée, ils vont avoir un taux de mortalité qui va chuter parce qu'ils vont connaître leur environnement. Et là, c'est là qu'ils peuvent rester un grand moment vivant, bien sûr, sur leur territoire.
Alors, on parlait des moments d'observation que vous pouvez organiser aussi avec la LPO et puis vos escapades aussi à la recherche de ce hibou grand-duc. Est-ce qu'il faut le chercher ? Est-ce qu'il faut, si les auditeurs se disent « Tiens, je vais aller chercher le hibou grand-duc », est-ce qu'il faut le déranger, cet oiseau-là ?
Alors, le déranger, non, mais le chercher, pourquoi pas ? Donc, il y a moyen de faire l'un sans l'autre, c'est-à-dire on peut le chercher sans le déranger. La méthode qu'on a mise au point là depuis quelques dizaines d'années dans notre partie du Massif Central d'ailleurs, il s'agit de se rendre devant un site favorable, mais on peut être à 200 ou 250 mètres, hein, donc ne pas déranger, le soir à la tombée de la nuit comme on disait, plutôt en hiver, et écouter avec ses oreilles comme on a entendu tout à l'heure, le chant alors souvent du mâle seul, puis des fois du mâle et de la femelle en même temps. On note scrupuleusement ces observations, sur, par exemple, soit sur Faune Loire, qui est un site internet qui nous permet de saisir nos observations, soit sur des applis téléphones qui s'appellent Naturaliste, qui permettent de faire la même chose. Et comme ça, on enrichit notre base de données et de connaissances, et on a pu l'observer et s'en déranger, parce qu'on s'est tenu à distance et on n'est pas intervenu sur son site directement.
Alors, une fois qu'il a pris connaissance un peu de son environnement et passé ce moment juvénile, est-ce qu'il peut aussi être attiré par des sites habités ? Est-ce qu'on peut le trouver aussi à proximité de lieux de vie avec des humains ?
Alors, il vit assez proche des humains, le grand-duc, hein, souvent au débouché d'une vallée. Ça peut être le cas ici autour de nous, à Firminy, par exemple, avec les gorges de la Loire et ses affluents. Donc, on a autour de Saint-Étienne, de Firminy, de nos villes ici, des grands-ducs très près des villes, très près des maisons. Et donc, oui, on peut l'observer assez facilement. Ça n'est pas un oiseau qui a peur spontanément de l'homme. Et il se fait assez bien à notre environnement, et puis il trouve des fois de quoi manger. Hein. On parlait tout à l'heure des rats sur mulots qui fréquentent parfois nos agglomérations. Donc finalement, il se trouve pas mal, pas trop loin de nous, et il ne cherche pas forcément à fuir l'homme, c'est pas forcément son truc.
Alors même si vous dénombrez une population assez conséquente, est-ce un oiseau qui est protégé, une espèce protégée ?
Bien sûr, alors tous les rapaces sont protégés en France. Les rapaces nocturnes ont été les premiers d'ailleurs dès les années 60 à être protégés. Donc ça fait maintenant plus de 60 ans hein, que ces espèces sont protégées en France pour tous les services qu'elles peuvent nous rendre et puis pour leur beauté aussi intrinsèquement. Donc il est interdit de les déranger, de les perturber, bien sûr de les chasser, etc. Donc ils sont protégés, et cette protection pour pas mal d'espèces a permis de les conserver. Alors il y a quand même, comme on l'a évoqué, hein, des dangers qui ne sont pas intentionnels, hein, c'est-à-dire il peut y avoir des perturbations non intentionnelles sur ces espèces, et c'est à ça qu'il faut qu'on veille, nous, de mettre en place des actions de protection pour essayer de pallier ces inconvénients-là.
Alors, on peut connaître tout sur les Grands-Ducs avec un livre que vous avez édité qui s'appelle « Histoire de Grands-Ducs » qui est disponible à la LPO au tarif de 9,90 €. Alors, ce livre-là, qu'est-ce qu'on retrouve dedans ?
On retrouve tout ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire toute la période de vie de l'espèce au fil de l'année. On retrouve la reproduction, les parades, on retrouve des études sur la mortalité, telles qu'on vient de l'évoquer. Et puis on retrouve aussi une chose qui me tenait à cœur, c'est-à-dire nos prospections, c'est-à-dire la vie des ornithologues, des amoureux de la nature, autour de cette espèce, à la recherche de cette espèce, c'est-à-dire un petit peu toutes les actions qu'on essaye de mener, soit pour le mieux connaître, soit pour protéger.
Alors justement, ça tombe bien, dans cette émission des ondes, des ailes, que nous produisons ici sur Radio Ondaine en partenariat avec la LPO, à chaque intervenant, on leur demande pour terminer une anecdote d'observation, quelque chose qui vous a marqué. Voilà, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, avec ce Grand-Duc ?
Alors vous trouverez plein d'anecdotes dans le bouquin, j'en recueille une. On observe un couple de grands-ducs dans la vallée du Gier, là, plusieurs années, et puis avec une bonne reproduction de jeunes, trois jeunes, parfois une fois quatre jeunes, ce qui est exceptionnel pour cette espèce. Et puis un hiver, on retourne les voir et on voit le mâle avec un œil fermé, un mâle borgne, qui avait dû se piquer sur une épine d'aubépine ou je ne sais quoi. Donc on se dit, c'est cuit, il ne va jamais pouvoir chasser, jamais pouvoir se reproduire. Et puis au printemps, surprise, reproduction, parade, etc. Et ce mâle a élevé des jeunes, alors plusieurs années, en restant en borgne, c'est-à-dire en ne voyant que d'un seul œil, il a réussi à avoir plusieurs fois deux jeunes, et donc il a réussi à mener sa petite vie avec son handicap, et c'est quelque chose qui nous a beaucoup surpris.
Alors merci de nous avoir parlé, Patrick Baluet, du Hibou Grand-Duc, sur l'antenne de Radio Ondaine. À bientôt.
À bientôt, merci.